Allez, devant la Solera. Qu'est-ce que ces mots t'inspirent ? Jardin.
On a vu plein de jardins. On a vu Rome, la parcelle où on était. Où c'est encore plus beau qu'un jardin, je crois, parce qu'il y a 25 cépages dessus. Il y a des oliviers, il y a des fleurs. Il y a la vie, il y a un figuier au coin où on peut manger. Le vin est toujours un breuvage qui engendre dialogue et convivialité. Dans le dialogue et convivialité, il y a humanisme, il y a humain. Donc l'humanisme, c'est le partage. Et partager, ça va être une des choses les plus importantes dans la vie. Et pour un vigneron, en tout cas, c'est la chose la plus importante quand il sait bien la partager. À notre modeste niveau, on est des artistes, on compose. Mais nous, en fait, en tant que vigneron, même si on a mis en place un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de paramètres qu'on ne maîtrise pas parce qu'on travaille avec la nature. Et travailler avec la nature, c'est toujours compliqué.
Poésie,
Baudelaire. Poésie, c'est du partage, ouais. C'est l'âme du vin. Soit l'âme du vin, chanter dans les bouteilles. Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, un chant plein de lumière et de fraternité. On revient encore sur humanité, fraternité, partage, amour. Humanité, fraternité, partage, amour.
On est dans les vignes de la Madeleine.
Alors, non, c'est plus compliqué que ça en fait. On est sur une parcelle qui a été faite par mon père en 64 et sur laquelle il a complanté plus de 20 cépages ensemble sur la même parcelle. C'est-à-dire qu'on a des blancs, des noirs, des gris, avec grenache blanc, noir gris, des muscats noirs, des muscats petits grains, des muscats alexandrie, des clairettes, des chasselas, et notamment les raisins de la Madeleine. En fait, la Madeleine, c'est un raisin qu'on plante pour être un témoin des dates de vendange, puisqu'en fait, il est mûr pour Sainte-Madeleine le 17 juillet. Donc en fait, en fonction de l'année, de la date à laquelle il est mûr, on sait si on est sur un millésime précoce ou tardif. Et donc là, cette année, il était mûr pour le 14 juillet, donc ça veut dire qu'on aura un peu d'avance par rapport au vendange. Voilà. Sur cette parcelle, bon, pour aller rapidement, c'est une parcelle sur laquelle il a fait ce qu'on peut imaginer de mieux, à mon avis, c'est-à-dire qu'il a récolté des bois de tous ses cépages un peu partout, préparé les greffons la veille, ils ont mélangé les greffons et greffé comme ça venait. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une complantation avec rangée par rangée, mais tous les cépages sont mélangés au milieu. D'ailleurs, on le voit aux hauteurs de cèpes ou aux vignes, etc. Et ce, pour deux objectifs. Le premier objectif, c'est pour travailler sur la pollinisation des cépages, puisque les pollens de fleurs de vigne ne sont pas intéressants pour les abeilles. Donc la seule possibilité qu'on peut avoir d'échange entre des pollens de cépages entre eux, c'est qu'ils fleurissent en même temps et que par le vent, il y ait des échanges de pollen qui s'opèrent. Et on va ainsi enrichir génétiquement chacune des grappes, c'est-à-dire que des pollens de muscat vont aller sur des pollens de chasselas, des chasselas sur des grenaches, etc., etc. Et on va enrichir naturellement et génétiquement chacune des grappes. Hein. La preuve en est que des fois, on se retrouve sur une souche de blanc avec un grain qui est noir. Ou des fois, une souche de noir avec un grain qui est blanc. Mais là, on a vraiment la preuve que le pollen est arrivé à se mélanger avec les autres. Voilà. Le deuxième objectif, et d'où l'intérêt de faire une complantation avec tout mélangé, c'est pour lutter contre les maladies. Parce qu'en fait, chaque cépage n'est pas sensible aux mêmes maladies au même moment. Si on prend un exemple, par exemple, cette parcelle, il y a des grenaches qui sont plus sensibles au mildiou, mais très peu à l'oïdium. Et en même temps, on a des muscats qui sont plutôt sensibles à l'oïdium, mais quasiment pas au mildiou. Si on a le même cépage sur une même parcelle, on va se retrouver avec une souche qui va être toujours au milieu un peu plus faible que les autres et qui va attraper la maladie. Et comme tout le monde est sensible au même moment, ben la maladie va se disséminer, ça va faire une épidémie. C'est comme dans la vraie vie, quand il y a la grippe, il y a toujours un qui est plus faible qui prend la grippe et puis qui la file au moins faible, etc. Il y en a une épidémie. Alors que là, si en fait le voisin n'est pas sensible à la maladie, automatiquement, il va arrêter l'épidémie et on va se retrouver avec quasiment plus de problèmes de maladie. Là, on est sur une parcelle où on a fait 3 pulvérisations, mais on a mis une seule fois du soufre et du cuivre, et puis après, on a mis que des mélanges de purins près l'ortie fougère. Et on n'a quasiment pas de maladie. Bon, après. Mais sinon, c'est vrai que c'est vraiment l'exemple type de ce qu'il fallait faire. Après, bon, ce qu'on a essayé de faire ici aussi, et qu'on essaye de faire un peu partout, c'est essayer de préserver des espaces de biodiversité. C'est-à-dire que, bon, quand on regarde ici, on a des arbres et des arbustes un peu partout. On a arraché une partie de vigne pour planter des oliviers. Sur les oliviers, on ira voir tout à l'heure, en dessous, on a planté des bananes herbées fleuries, dans lesquelles on va avoir tout un tas d'insectes qui vont venir nicher. Qui dit insectes, dit qu'il va y avoir derrière des oiseaux. Alors ici, sur le haut, ça va dans la cave des Solérans, en général. Et sur le bas, on a des cinceaux. Alors, en fonction des années, soit ça va dans Flower Power, soit ça va dans monocépage cinceaux. Par exemple, en 2013, on avait fait une cuvée monocépage sur cette parcelle qui s'appelait les copains. Enfin, ça change, en fait, en fonction des années. Il est vrai que pour certains vignerons qui sont implantés dans des espaces qui sont relativement préservés, avec de la nature autour, etc., c'est facile de faire de la biodiversité, de recréer des équilibres, des biotopes. Ici, on est quand même sur des espaces où la vigne tente à devenir majoritaire et pas obligatoirement bio. On a commencé il y a 15 ans de faire ça. On a d'abord commencé par essayer de d'éliminer les parcelles sur lesquelles on pouvait pas travailler, soit parce qu'elles étaient trop enclavées au milieu de parcelles en chimie, soit parce que c'est trop petit, etc. Et sur les parcelles sur lesquelles on a estimé qu'on pouvait faire quelque chose, on a entamé une démarche de mise en place de la biodiversité. On a planté plus de 1300 arbres en 7 ans. C'est-à-dire qu'on a recréé des haies autour de chacune des parcelles. Les endroits où on était vraiment trop mitoyens avec des voisins, on a arraché des rangées de vignes pour planter des oliviers. On a également essayé, au milieu des champs d'oliviers, d'implanter des bandes enherbées fleuries, sur lesquelles les abeilles vont trouver de quoi se nourrir depuis début mars jusqu'à fin juin. Mais également, les autres insectes vont venir nicher. Ce qui dit insectes, qui dit qu'il va y avoir des oiseaux. Qui vont venir manger des insectes, qui va y avoir aussi le petit gibier à poil, hein, les petits lapins, etc., qui vont trouver des herbes tendres pour se nourrir. L'objectif, en fait, c'est plus de recréer un équilibre pour que l'homme ait le moins à intervenir, faire le plus confiance à la nature. Bon, là, on a les maisons, les abris à chauves-souris qu'on a implantés sur ces secteurs-là. L'objectif est d'attirer les petites chauves-souris, les pipistrelles, sont toutes petites, et qui vivent dans les habitats, enfin, dans les villages. Mais elles ont un rayon d'action de 2 km. On a créé un chemin en identifiant des endroits où il y avait des ruisseaux, parce qu'elles aiment bien avoir des creux et des arbres pour se placer. Et donc là, sur 4 parcelles, comme ça, on a mis un cheminement, en espérant qu'un jour, elles veuillent bien toutes venir et venir s'installer définitivement là. Voilà. La chauve-souris est le meilleur insecticide qui existe au monde, puisqu'elle est capable de manger 300 ou 400 fois son poids par nuit. Ici, on est sur une parcelle qui s'appelle Payan. C'est une parcelle sur laquelle, sur 2 hectares, on a mis 13 cépages. Alors, on a grenache gris, macabeu, muscat petit grain, muscat d'Alexandrie. Après, ici, de l'autre côté, on a carignan blanc, clairette musquée. Ça, c'est un cépage qui est très, très, très rare. En fait, c'est des vieux bois qu'on a récupérés dans un conservatoire qu'avait fait mon père et qu'on a remultiplié. Castets, je suis le seul à l'avoir planté avec Château Simone. Il y a moins de 1 hectare déclaré planté en France. Carignan blanc, carignan noir, œillade noire, œillade muscate. Et après, tout à fait à haut, on a carignan blanc, terré blanc, picpoul gris, ribérin noir, terré noir, morastel. Donc on se retrouve avec 13 cépages sur une même parcelle qui cohabitent. Alors bon, hormis le fait, bon là on a vraiment fait, on n'a pas fait une complantation mélangée, parce que bon, on a fait par rangée, donc c'est un peu plus pratique pour vendanger, etc. Par contre, quand on regarde au coup d'œil, bon, déjà, on a des couleurs et des feuillages qui sont différents, donc ça veut dire que ça va être un endroit où on va avoir envie de s'arrêter. Alors nous, ça flatte notre œil, mais ça va flatter l'œil aussi de l'oiseau, parce que de l'insecte, parce que en fonction des couleurs, etc. Et on va essayer vraiment de recréer des espaces de biodiversité au milieu de la lune. Hein, voilà. Donc là, on a fait pareil, on a planté une haie tous les 2 mètres, hein, un arbre tous les 2 mètres, avec toujours pareil, strate haute, moyenne, basse. Hein. Pour attirer des oiseaux et des insectes qui vivront à 60 cm, qui vivront à 3 mètres, qui vivront à 7 mètres.
Allez, devant la Solera, qu'est-ce que ces mots t'inspirent ? Jardin.
On a vu plein de jardins. On a vu Rome, la parcelle au été. C'est encore plus beau qu'un jardin, je crois, parce qu'il y a 25 cépages dessus. Il y a des oliviers, il y a des fleurs. Il y a la vie, il y a un figuier au coin où on peut manger. Il y a des fruits pendant tout l'été. Jardin, c'est pas le jardin d'Éden, mais presque. C'est la vie.
Humanisme.
Le vin est toujours un breuvage qui engendre dialogue et convivialité. Dans le dialogue et convivialité, il y a humanisme, il y a humain. Donc l'humanisme, c'est le partage. Et partager, ça va être une des choses les plus importantes dans la vie. Et pour un vigneron, en tout cas, c'est la chose la plus importante quand il sait bien la partager.
Vie.
Pour un vigneron, on est toujours dans donner la vie en permanence. C'est-à-dire qu'on accompagne les raisins tout au long de l'année. Au moment de la taille, on les imagine quand ils vont pousser, hein, choisissant les brins ou les sarments qui vont devenir des bourgeons. Au printemps, on les voit grandir, évoluer, on les voit changer de couleur aussi parce que le vert tendre du printemps devient un peu plus foncé à la fin du printemps, début de l'été, et commence, on voit les premières grappes apparaître, les fleurs, les fruits. Là, on est quasiment à un mois et demi de pouvoir donner la vie à un nouveau millésime. C'est un éternel recommencement qui est à la fois beau et à la fois harassant. Parce que dans la vie, on fait pas 1000 enfants, alors qu'un vigneron, dans sa vie, s'il compte le nombre de cuvées qu'il a fait, le nombre de vinifications, etc., il peut être sur des milliers. Donner autant d'amour qu'on peut à un enfant, en donnant la vie à plein de raisins, c'est à la fois compliqué et à la fois passionnant.
Composition.
Composer, assembler. La composition, pour moi, aujourd'hui, elle se passe plus dans la vigne qu'à la cave. C'est-à-dire que composer, c'est essayer de trouver des cépages qui seront le mieux adaptés au changement climatique, avec des cépages qui seront plus tardifs, etc. Les mélanger, les assembler, les vinifier et après les assembler le vin fini. Composer, c'est quasi un travail d'artiste. Alors en tant que vigneron, on n'est pas vraiment un artiste parce que compositeur en musique, c'est vraiment celui qui crée des grandes œuvres. À notre modeste niveau, on est des artistes, on compose, mais nous en fait, en tant que vigneron, même si on a mis en place un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de paramètres qu'on ne maîtrise pas parce qu'on travaille avec la nature. Et travailler avec la nature, c'est toujours compliqué. Il y a toujours des paramètres qu'on ne maîtrise pas, comme dans les sentiments, comme dans la vraie vie, quoi. La maladie, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas et on doit y arriver.
Poésie,
Baudelaire, si vous voulez. Non, la poésie, il faut être poète un peu, ouais, mais ouais, la poésie, c'est du partage, ouais. L'âme du vin, soit l'âme du vin, chanter dans les bouteilles. Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, un chant plein de lumière et de fraternité. On revient encore sur humanité, fraternité, partage, amour, voilà, love.
Merci.